des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Nos adolescents, dans notre société française, seraient-ils malheureux ? C'est en tout cas ce que le rapport annuel de l'UNICEF sur l'adolescence, rapport sorti en septembre 2014, donc tout récemment, met en lumière. Selon ce rapport, 43% des jeunes de 15 ans et plus seraient en situation de souffrance psychologique. Au-delà des raccourcis alarmistes que nous offrent souvent les statistiques, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur cet état des lieux des adolescents en France et en 2014.
Le rapport rendu public aujourd'hui dévoile qu'un tiers des enfants et adolescents français sont en souffrance psychologique. Un tableau noir qui est largement accompagné par le développement des réseaux sociaux, indique cette étude de l'UNICEF.
Toute notre société, à travers les représentations qu'elle donne, la publicité, ce qui se dit sur les écrans, la violence qui est donnée à voir, le sadisme, on jouit de faire peur, on jouit de faire mal. Ben oui, les jeunes nous renvoient une image du monde que nous leur proposons.
Facebook, il y a d'un côté ceux pour qui le mot n'évoque rien, et de l'autre, tous ceux qui ne peuvent plus s'en passer, car c'est là qu'ils échangent, se font des amis, bref, se créent une vie, même si elle est virtuelle. Car cela se passe sur Internet, Facebook, c'est comme une immense cour de récréation à travers la planète, mais une cour de récré pas si innocente qu'il n'y paraît.
Le binge drinking, en bon français, l'alcoolo défonce, qui consiste à s'enivrer massivement et rapidement, est devenu aujourd'hui un mode de consommation courant.
Famille monoparentale, danger d'Internet, crise économique, la société évolue parallèlement à la situation des adolescents. Docteur Dominique Desmichel, on a parfois le sentiment que l'adolescent est en première ligne de ces bouleversements de la société et qu'en tout cas il réagit de manière disproportionnée, comme une éponge, et que du coup tous ces bouleversements vont lui l'impacter.
Disproportionné, je ne sais pas trop. En tout cas, l'adolescent y réagit. Hein. On a vu lors des émissions précédentes combien ce temps-là était un temps de mutation, puisqu'il s'agit d'un grand temps de passage où on est en quelque sorte contraint de quitter une enfance dans laquelle on avait pu se sentir au moins subjectivement relativement bien, au stade de l'adulte où il faut prendre ses responsabilités et tenter d'être autonome au maximum. Donc c'est un passage difficile.
Oui, on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que l'ado, là aujourd'hui, on parle bien des ados en France et en 2014. Ouais. Car la situation des adolescents dans le monde est forcément extrêmement diverse. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux phénomènes, comme par exemple la famille monoparentale, on va y revenir, Internet, etc., qui forcément bouleverse l'adolescent.
Il y a probablement fondamentalement une quête d'identité, au fond. Hein. L'adolescence, c'est cette période charnière, et que celui qui sort de l'adolescence ait du mal à trouver sa propre identité, sa propre sécurité, une évaluation de lui-même qui lui permette de sentir qu'il a le droit d'exister, le droit d'appartenir au monde, et qu'il puisse faire ses propres choix, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ouais. D'autant plus que notre société propose, c'est intéressant comme lapsus, hein. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longuement. En tout cas, notre société propose des modèles qui ne sont pas très sécurisants actuellement. Les grandes idéologies ont un petit peu disparu. Les grands modèles sociaux ou politiques également. Le monde politique est quand même très décrédibilisé et probablement quand même à juste titre, même s'il est rempli de gens généreux et plein de bonne volonté. Les figures parentales sont largement mises à mal. Vous évoquez les familles monoparentales où justement cette possibilité pour l'adolescent de se confronter à deux personnes différentes qui vont incarner des choses différentes et avec lesquelles il va pouvoir se différencier n'existe plus.
On y reviendra sur les familles monoparentales. Oui. Ce rapport, quand même, il débute par une étude du bien-être matériel. Et on voit que 80% des ados en France vivent dans un relatif confort, c'est-à-dire le calcul avec le nombre de paires de chaussures, de vêtements, de loisirs, etc. Je n'oublie pas ceux qui peuvent être considérés en situation de privation. Ils sont environ 17% et ceux-là sont également les plus fragiles. Dans toutes les grandes questions abordées par l'enquête, on parle d'inégalité cumulative. Mais sur ces 80% qui vivent plutôt bien, qui sont quand même des nantis en France, on voit un véritable mal-être. On dit les ados matérialistes, on dit les ados consommateurs à outrance, les publicitaires les adorent, et pourtant, ils ont beau avoir tout ce qu'ils veulent, c'est pas pour ça qu'ils sont plus heureux.
Ben, c'est-à-dire, cette question matérielle se pose avec des choses concrètes. Hein, c'est-à-dire, est-ce que j'ai trois repas par jour? Est-ce que j'ai un lieu tranquille pour dormir ou pour travailler? Est-ce que j'ai suffisamment accès aux loisirs? C'est-à-dire, en gros, la possibilité de regarder la télévision, éventuellement d'avoir un jeu, éventuellement un jeu en réseau, de pouvoir aller au cinéma, d'avoir un minimum de loisirs. Donc, c'est vrai qu'à ce titre-là, probablement, dans cette dimension tout à fait concrète et matérielle, une bonne majorité des adolescents ne sont pas à plaindre. Mais ce qui est proposé par notre société, c'est essentiellement du côté de l'avoir. Et si bien évidemment la question de « j'ai un endroit tranquille pour travailler » correspond à une possibilité d'être dans une relation juste avec soi-même et son investissement, que je dirais entre guillemets professionnel, c'est-à-dire scolaire, si ça fonctionne, c'est juste. Si la possibilité d'aller au cinéma avec les copains fonctionne non pas en tant que passe-temps, mais en tant qu'espace relationnel avec les copains, alors ça fonctionne. Si le fait de pouvoir avoir accès à Internet et de pouvoir jouer en réseau avec les copains, un qui habite Bordeaux et l'autre qui habite Toulouse ou Lille, si ça fonctionne en tant qu'espace relationnel, c'est-à-dire si ça fait du lien, si ça fait de l'être, ça marche. Si on a l'objet en lui-même et qu'il est désaffecté, c'est-à-dire il est juste là comme objet, évidemment, ça laisse quelque chose qui est de l'ordre d'un malaise.
Alors revenons à la famille, ce noyau familial tellement primordial pour les ados. Aujourd'hui, on sait qu'un couple sur deux à peu près divorce, les familles monoparentales et recomposées sont devenues monnaie courante. Or, ce rapport de l'UNICEF, j'y reviens, tend à montrer que pour les adolescents, c'est une source de mal-être assez profonde.
Oui, je pense que c'est une souffrance, en tout cas. C'est une épreuve, toujours. C'est une épreuve à plusieurs niveaux. Probablement parce que, bien évidemment, de manière concrète, pratique, affective, émotionnelle, lorsque les parents se séparent, eh ben, c'est une épreuve objective. Ouais. Voilà, les choses vont changer, on va changer d'appartement. En général, le lieu d'habitation est plutôt un peu plus petit après qu'avant. Il y en a deux, il faut changer d'affaires, voilà. Le deuxième point, bien évidemment, c'est la tension qu'il y a entre les parents. Mais ce qui est probablement difficile pour les adolescents, c'est d'entendre chez le père ou la mère une dévalorisation de l'autre. Hein. Et c'est pour ça que chez les personnes moi, que je reçois qui sont dans ces situations de conflits difficiles dans leur couple, je les invite, enfin je les aide à réfléchir pour qu'ils puissent régler les comptes avec leur conjoint dans quelque chose qui soit horizontal, c'est-à-dire avec leurs amis, avec éventuellement, pourquoi pas, leurs parents, hein, mais surtout leurs amis, ou qu'on en parle ensemble, mais qu'ils évitent de faire ça avec les adolescents. Parce que les adolescents ne supportent pas, parce qu'ils sont, dans ces cas-là, mis dans une forme de situation presque de frère ou de sœur des parents. Ils perdent leur statut d'enfant, enfin de fils ou de fille d'eux, et ils sont bien évidemment dans une sorte de conflit de fidélité, de conflit de loyauté. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait schizoïde, qui les coupe en deux, et donc qui est très difficile.
Et il y a ce sentiment qui ressort aussi du rapport de ne pas pouvoir compter sur son père ou sa mère. Ça paraît... En effet, difficile à vivre, en tout cas quand on est ado, ne pas pouvoir compter sur son père et sa mère.
Dans une séparation de couple, hein, il est nécessaire qu'il y ait des tensions. Il est incontournable qu'il y ait des tensions. Ouais. Mais je veux dire, il est aussi nécessaire que l'adolescent comprenne qu'il y a des tensions entre leurs deux parents et que ses parents ont choisi de plus continuer à vivre ensemble. Hein. Ça, c'est important à dire parce que paradoxalement, dans certaines situations, la séparation se fait de manière absolument indolore, sans saveur, sans affect, sans rien du tout. Et pour l'enfant, et pour l'adolescent aussi, il ne comprend rien du tout. Les parents, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, et puis ils se séparent. Alors, ça peut témoigner ou d'une espèce de surmoi parental qui fait qu'on ne dit rien du tout, ou ça peut juste témoigner, et à mon avis c'est encore plus grave, qu'entre les deux parents, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de haine, mais il y avait l'opposé de ce couple amour-haine, c'est-à-dire une forme d'indifférence. Et ça, c'est encore une plus grande violence. Parce que quand au moins les parents s'engueulent, ça veut dire qu'ils attendent, qu'ils espèrent, qu'il y a toujours en tout cas une forme d'affect, de sentiment entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Dans cette idée de pouvoir compter sur l'autre, il y a là quelque chose d'important dans l'identité sexuée dont on a déjà parlé, qui s'enracine avec, pour le masculin, avec le père et la partie masculine de la mère, pour le féminin, avec la mère et la partie féminine du père. Il y a la nécessité de se confronter à ça. Or, le plus souvent, le père souffre, en particulier dans sa dimension virile, et aussi dans ses sentiments. Et la mère, de la même manière, elle souffre dans sa partie émotionnelle et aussi dans sa partie masculine qui fait qu'elle a choisi, par exemple, de se séparer. On sait que les deux tiers des divorces sont demandés par les femmes. Donc, elle a posé un acte qui relève de sa partie masculine. Donc, pour l'enfant, et en particulier pour l'adolescent, trouver des modèles identificatoires devient extrêmement difficile puisque c'est comme si vacillait le couple parental dans sa réalité du papa et de la maman, mais aussi des identités sexuées des deux parents dans la polarité masculine et féminine de chacun.
Alors comment ça va se traduire chez l'ado ? Manque de confiance, ça peut être après développer des pathologies comme la phobie scolaire peut-être qu'on verra plus tard. Est-ce que tout ça est lié ou alors est-ce que ça peut se traduire de manière plus précise ?
En tout cas, vous savez, dans ce qu'on appelle le narcissisme, c'est-à-dire en gros, on va dire, pour raccourcir un tout petit peu, l'estime qu'on a de soi. Cette estime de soi se développe dans deux grandes parties. Une dans la petite enfance, on pourrait dire, ou assez tôt, qui est le narcissisme primaire et qui correspond au fait que l'enfant sent qu'il est le fruit du désir des parents. Et ce désir des parents pour lui est tout à fait essentiel, c'est-à-dire le papa et la maman rêvent pour lui qu'il va devenir, alors je ne sais pas trop quoi, le meilleur artisan de France, le président de la République mondiale, faire polytechnique ou être un excellent garagiste ou n'importe quel commercial, peu importe. Ouais. Mais il est nourri par ce désir-là des parents qui le portent. Et puis au moment de l'adolescence, il va falloir qu'il quitte cet espace où il est l'objet du désir des parents, qu'il a nourri, qu'il a construit, qui lui a permis de vivre, de grandir et d'avoir foi en la vie, pour récupérer ça. Et s'il sent bien évidemment que ses parents sont déficitaires en tant que rapport à l'existence, c'est pour lui difficile pour construire cette estime de lui. Alors il va se tourner vers les réseaux et il va tenter de trouver une justification au fait de s'aimer lui-même auprès de ses copains. On avait vu combien on quitte la sphère familiale, on rentre dans la sphère horizontale des copains, des amis et des relations, avant de passer à la troisième étape qui est de fonder éventuellement à son tour un couple, une famille ou un autre groupe, mais en général un groupe beaucoup plus restreint.
Quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces, qui salissaient ton sang plein d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avaient que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges et que je finirais morte dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés, connard. Tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer, l'exemple infatuel que les lois haïssaient, pointé du doigt et qui depuis ses 12 piges n'est plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, ou ceux qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle, et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement tu croyais qu'on aide les mômes à base de dressage, mais toutes vos institutions mènent à la perte, tu captes le message. Alors si tu crois.
Et Connard, par la rappeuse marseillaise Kenny Arcana, extrait de son album Entre Ciment et Belle Étoile. C'est aussi toute la rage des adolescents qui perdent pied, comme Kenny Arcana, placé en foyer à l'âge de 11 ans, après des fugues à répétition, et totalement incomprise, si on en croit les paroles de sa chanson, par certains de ses éducateurs qui n'auraient pas misé un copec sur son avenir. Ça, docteur Dominique Desmichel, ce sont des situations bien réelles et qui existent malheureusement énormément, quoi.
C'est très intéressant cet exemple. J'ai envie de reprendre par exemple le fait qu'elle ait fait des fugues, hein, cette jeune femme-là. Hein. La fugue chez l'adolescent, je vais peut-être un peu tragifier la situation, mais je crois qu'il faut l'entendre presque comme un équivalent de tentative de suicide.
Hein. Ah oui.
C'est-à-dire, il y a l'idée que lorsque l'adolescent s'en va et qu'il n'est plus dans la maison, il a envie qu'on le considère comme mort. Il est mort. Hein. C'est-à-dire, on ne le retrouve plus. Quand on ne le retrouve plus, c'est qu'il y a des chances.
Il a disparu, quoi.
Voilà,
disparu,
exactement. Donc, c'est important aussi d'entendre ça et de ne pas du tout banaliser les fugues. Quand bien même la fugue, c'est juste entre 21h et minuit. Hein. Ça a vraiment valeur de symptômes. On reprendra peut-être ça. On voit bien que cette jeune femme, ou comme vous le disiez, en tout cas, si elle fait aussi des reproches à ses parents ou équivalent de parents, ouais, puis à ses éducateurs, c'est qu'elle, elle a vécu subjectivement, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais elle l'a vécu comme telle, que justement, on n'avait pas foi en elle. Or ça, c'est tout à fait important que les parents aient toujours, toujours, sans aucune exception, foi en l'adolescent. Ça ne veut pas dire que le parent doit dire bravo, applaudir à tout. Le parent doit dire je pense que tu peux y arriver, que tu dois y arriver, t'as qu'à réfléchir là-dessus, on peut réfléchir ensemble. Hein. Le parent peut dire je suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais, je pense que là tu déconnes complètement, que ça n'est pas juste, mais tu as une valeur qui dépasse les actes que je juge ne pas être bons pour toi. Cette confiance dans l'adolescence, dans l'adolescent ou dans l'adolescente, vient lui dire justement l'estime qu'on a pour lui. Ouais. Et c'est cette estime-là qui va lui permettre de reconstruire un autre narcissisme, une autre auto-évaluation de lui-même, et ça, il faut qu'il l'enracine dans un espace relationnel.
Oui, parce que donc on est sur l'importance des éducateurs en général, que ce soit aussi bien les parents que des professeurs, et on sent bien que l'adolescent, il en a malgré tout, il en a besoin, même s'il veut être indépendant. On imagine Kenny Arcana qui a sûrement fait une rencontre à un moment donné qui l'a poussé à devenir ce qu'elle est, qui aujourd'hui est engagée, militante dans un tas d'associations. Oui. Et alors cette importance de l'éducation, justement, le rapport de l'UNICEF, il revient dessus par rapport à l'école, où nous sommes à 45% des ados qui se disent angoissés à l'idée de ne pas réussir à l'école. C'est aussi un message des enseignants qu'on leur envoie. Oui. Quoi.
Par rapport à cette jeune femme marseillaise, là, je reprendrai aussi, là encore, vous voyez, le rapport à l'idéalité. Parce que si elle fait de la musique d'une part, mais elle est engagée, ça veut dire qu'elle a probablement investi quelque chose de son identité profonde et de son idéalité dans ces différents engagements que vous avez cités, que je ne connais pas là. Mais... Donc, elle a quelque chose de puissant, quelque chose qui la dépasse, quelque chose qui est, on pourrait dire, qui est de l'ordre d'une espèce de transcendance, on pourrait dire, et c'est ça qui la nourrit et qui la fait vivre. Chez les adolescents à l'école, la pression est importante. Je rediscutais avec une femme qui parlait de son fils qui est en classe de première.
Et de plus en plus tôt. Moi, j'ai des exemples, même en CM2, il y a une pression énorme. Quoi.
Oui. Alors, on est bien dans une forme de lignée qu'on voit beaucoup dans les pays comme le Japon, par exemple. Il y a une très, très grande pression. Et ce qui est important, je crois qu'on avait évoqué ça, ce qui est important aussi à dire, c'est que la sélection dans l'école se fait essentiellement par l'échec, ce qui est assez terrible, c'est-à-dire n'est pas valorisé ce qui marche bien, mais est surdévalorisé ce qui ne marche pas. Probablement, la société américaine est plus encline à favoriser tout ce qui marche bien. Bon, t'es pas bon dans cette matière, mais dans l'autre, c'est bon. Bah, écoute, vaut peut-être mieux que tu sois commercial plutôt qu'ingénieur, ou il vaut mieux que tu fasses de la littérature plutôt que des mathématiques. Hein. Donc, et d'ailleurs, dans les filières universitaires américaines, on sait très bien qu'ils ont des tas de modules qui n'ont rien à voir avec leur... voilà, ils font de la philosophie, mais ils vont avoir un module d'histoire des sciences ou un module de je sais pas, je dirais de mécanique moto, peut-être. Ouais. Enfin, j'en sais rien, hein, mais voilà. On leur ouvre différents espaces. Donc cette pression chez les enfants puis chez les adolescents pour réussir est terrible. Les enseignants sont le plus souvent dans cette approche-là. Ils ont, eux, en raison probablement de leur propre identité narcissique de prof, ils ont besoin d'avoir des classes qui réussissent. Les lycées ont besoin d'avoir 99,9% de réussite au bac. Les filières classiques sont survalorisées par aux filières techniques ou professionnelles. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est extrêmement lourd.
C'est pas une conséquence aussi simplement de la peur de l'avenir, ce qui paraît être un sentiment tout à fait normal chez un adolescent pour le coup.
Oui, je sais pas si c'est la peur de l'avenir qui est normale, qu'il y ait une
chômage,
petite angoisse,
crise économique,
voilà, qu'il y ait une petite angoisse par rapport à la réalité. Mais vous voyez, ce matin en venant, j'entendais aux informations un pronostic de croissance, voilà, qui était donné, je crois, par l'INSEE. Et la présentatrice, pourtant sur une radio qui tâche de réfléchir un tout petit peu, parlait de prévisions pessimistes. Alors, je pense que les gens, ils vont pas retenir le chiffre ou ce que ça veut dire. Ils vont dire, ben voilà, on est encore dans le brouillard, on est encore dans le caca, on est encore dans quelque chose comme ça. Alors, il s'agit pas de tout positiver, par exemple, mais on pourrait aussi rappeler que, je sais pas, que les seniors en France ont un taux de travail qui est très important, que le nombre de PME en France qui marche très très bien est supérieur à celui de l'Allemagne, etc. Bon, après, ça sort de mon champ de compétences. Mais donc, cette sorte de pessimisme de fond qu'il y a peut-être en France, cette forme d'hypocondrie où la France est toujours malade de quelque part, quelque chose, c'est un poids lourd pour tout le monde.
Et alors là, il y a des conséquences très précises pour les enfants qui subissent cette pression. Ça, on le voit, c'est les maux d'estomac avant de partir à l'école, et puis ça peut aller beaucoup plus loin.
Ça c'est une chose qui est importante. C'est comment on repère les enfants ou les adolescents qui ne vont pas bien. Il y a des choses simples que sont, par exemple, les symptômes physique. Les adolescents, ça c'est ma casquette de généraliste que je reprends, de médecin généraliste que je reprends une petite seconde, les adolescents ne consultent jamais. Ils viennent, les filles viennent à partir d'un certain âge pour renouveler leur pilule, mais on les voit deux fois par an, quoi, en gros. Les autres, les adolescents, en particulier les garçons, ils viennent au mois de septembre pour leur certificat de sport, et on ne les voit jamais. Donc, quand un adolescent vient consulter un médecin généraliste pour n'importe quoi, il y a toujours lieu de s'inquiéter. Parce que quand il a le petit truc que tout le monde a, genre gastro-entérite virale parce que c'est l'épidémie ou la grippe, il vient même pas consulter, lui. Hein. Ses parents viennent parce qu'il a besoin d'un arrêt de travail éventuellement ou d'un petit pansement pour aider à ce que ça passe. Mais lui, il vient pas. Il a pas besoin d'arrêt de travail, donc il vient pas. Et puis, ça passe tout seul. Donc, les adolescentes, qui déjà sont pas très souvent malades, quand ils consultent et qu'ils viennent voir leur médecin généraliste, une, deux, trois fois, dès la deuxième ou la troisième, faut se dire, il y a quelque chose qui va pas. La deuxième chose, c'est le rapport à l'alimentation, dans le sens large du terme, c'est-à-dire un adolescent qui mange mal, qui mange trop, qui mange plus, ou qui a des consommations particulières, du genre que des boissons sucrées, que de l'alcool, ou beaucoup d'alcool en tout cas. Ça, c'est aussi des éléments qu'il faut repérer parce que c'est un adolescent qui va mal. Le sommeil aussi, hein, un adolescent qui a du mal à s'endormir ou qui se couche à 1h du matin et qu'il faut secouer le matin pour aller au collège ou au lycée, c'est un autre élément aussi de surveillance. Et puis l'espace relationnel. Hein. L'adolescent, on l'a dit et redit, il vit dans son espace horizontal avec ses copains. S'il y a une diminution du nombre de copains, s'il y a une raréfaction, si l'adolescent reste beaucoup dans sa chambre, qu'il en sort pas ou qu'il en sort peu, s'il est quasi jamais invité ou qu'il n'invite pas, Alors évidemment, il y a des questions de tempérament, il y a les introvertis et les extravertis, c'est pas la même chose. Ça aussi, c'est un élément d'inquiétude.
Par rapport à ce que vous dites, on a l'impression que c'est une longue descente et que du coup, j'imagine que la guérison est d'autant plus longue également pour sortir de cette angoisse de l'école.
Oui, ce qui est important en tout cas, c'est que les parents repèrent relativement vite ce type de choses et ensuite adressent. Hein. La première personne à contacter, c'est souvent le médecin généraliste. Oui. Va voir le docteur Dupont, tu le connais, il t'a connu depuis que tu es tout petit, nous aussi on le connaît, va, puis tu vas discuter avec lui. Alors, il y a des généralistes qui sont parfaitement bien formés à ça, il y a des généralistes qui le sont moins, et puis c'est important de rappeler que même pour un psy, aborder avec un adolescent ou un adulte, mais en l'occurrence un adolescent, est-ce que de temps en temps tu es triste? Est-ce que de temps en temps tu vas pas bien? Est-ce que de temps en temps tu as envie de je sais pas trop quoi, de trouver une corde pour te la passer autour du cou, de te jeter dans la rivière, etc. Ce sont des choses qui sont pas faciles à aborder, mais qui sont importantes. En particulier, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, du côté d'une certaine forme de tristesse, d'envie de rien, de déprime, de cafard, voilà, tout cet espace un peu de la nuit, mais d'une nuit sombre et non pas d'une nuit créatrice qui envahit le psychisme de l'adolescent.
La phobie scolaire, venons-en. Ouais. Comment ça se traduit ?
Alors, la phobie scolaire, c'est quelque chose qui est en très, très grande augmentation. C'est quoi la phobie scolaire ? Ce sont des enfants qui n'arrivent plus, des adolescents, hein, le plus souvent des adolescents, c'est fin de collège et puis lycée. Ce sont des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Pourquoi ? De manière très basique, parce qu'en fait, ils ont peur, ils sont anxieux et ils ont une angoisse extrêmement importante. Les phobies scolaires, il faut premièrement les repérer très tôt. Deuxièmement, savoir que c'est une pathologie ou une souffrance sérieuse. Les phobies scolaires, ça ne va pas durer un ou deux mois. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs trimestres et même parfois plus. Et qu'il faut orienter d'emblée les gens vers un psychothérapeute, psychanalyste ou autre chose. Enfin, peu importe, quelqu'un qu'on connaît, qu'on estime et qui a l'habitude de travailler avec les adolescents. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan du fond ? J'opposerai deux grandes causes principales. La première, c'est l'adolescent est en quelque sorte contraint de rester à la maison parce qu'il occupe une place qui est très importante pour l'économie familiale. J'ai une adolescente, par exemple, dont la fonction, c'est d'être la cendrillon de la maison. Voilà, pour faire court. C'est-à-dire, elle a cette place-là, c'est terrible, mais elle est la cendrillon de la maison. Et ça arrange bien tout le monde. Une deuxième raison, c'est que l'espace familial, en tant que lieu de sécurité, n'est pas intériorisé par l'adolescent. Pour sortir de chez soi, en gros, il ne faut pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il faut avoir une sécurité à l'intérieur de soi. Pour avoir une sécurité à l'intérieur de soi, il faut que la bonne mère, hein, dans sa fonction concrète de maison et dans sa fonction symbolique des parents, qui portent quelque chose de maternel, soit intériorisé. Si je suis suffisamment sécurisé, en sécurité à l'intérieur de moi, alors je peux sortir. Et cette intériorisation de la bonne mère n'a pas pu se faire chez ces adolescents. Donc, ils ont besoin de l'espace de leur chambre ou de leur maison comme sécurité réelle, parce qu'ils n'ont pas une sécurité symbolique à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, donc juste pour, je redirai, vraiment, si vous avez des adolescents qui commencent à plus pouvoir aller à l'école, il y a des programmes qui sont faits pour reprendre, alors il faut aller consulter au moins la maison des adolescents sur le département, donc essentiellement à Dreux, et puis avec et ou ensuite un suivi régulier, un suivi hebdomadaire pour un vrai travail de fond qui est absolument indispensable pour éviter que ça dure trop longtemps et que les adolescents ensuite retrouvent cette sécurité intérieure, la possibilité de sortir et de recréer des liens avec les copains, les copines et l'école. J'ai pas oublié tes guerres, t'écoutes plus de tes belles paroles qui finalement raquent le peu d'espoir qui reste. Toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles lorsque tu... Des mots pour le dire, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec Kenny Arcana et on se retrouve dans 15 jours, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour continuer à décrypter ce rapport de l'UNICEF sur le malaise de nos ados en France. Et ça, tu sais très bien d'ailleurs, je pourrais traîner devant tes tribunaux des pratiques de tirailleurs, mais bon, c'est pas
dans mes principes là, retournera pour toi aussi. Et tu te rappelleras ce jour-là de moi et des autres petits indociles. Car y'a une justice là-haut plus juste que votre système. Et on finit toujours par payer les effets des causes qu'on sème. Et connard, j'ai connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard.